Chaque mercredi, retrouvez l'émission Le sport a changé ma vie. Dans cette émission, vous allez retrouver des histoires inspirantes, passionnantes, de personnes qui se sont servies du sport pour changer leur vie, suite à un drame familial, une maladie, un problème professionnel, bref, ce que nous on a appelé un obstacle de vie. Des histoires inspirantes, passionnantes, qui vous rappelleront sûrement des histoires personnelles ou des histoires qui vous rappelleront ce qu'a vécu un membre de votre famille ou des amis. Ils nous partagent en toute humilité, en toute bienveillance et en toute inspiration leur histoire. Merci à eux et bonne écoute. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, j'ai pas un seul invité, j'en ai deux, c'est un duo, Benoît et Julien. Comment allez-vous?
Bien, merci.
Ça va, merci.
Génial. Bon alors, on va pouvoir partager toute votre histoire durant tout cet épisode qui est vraiment hyper inspirante, qui fait rêver, j'imagine, plein de gens, on en discutera tout à l'heure. Mais avant de raconter vos exploits sportif, est-ce que vous pouvez vous présenter? Chacun votre tour.
Je t'en prie.
Moi, je m'appelle Julien Brunet, j'ai 30 ans, je suis tétraplégique depuis ma naissance, classé dans l'infirmité motrice cérébrale dû à une grosse prématurité. Et voilà, comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui, le sport, c'est toute ma vie parce que grâce au sport, j'ai pu réaliser mon projet de vie. Aujourd'hui, je suis en appartement depuis 5 ans. Voilà, j'ai rencontré une belle personne. Voilà quoi, donc voilà.
Super. Alors, juste pour bien comprendre, tu dis que tu étais prématuré. Tu es né à combien du terme?
C'est ça. En fait, c'était une grossesse gémellaire.
D'accord.
Mon frère jumeau et moi, on est né à 6 mois et mon frère est décédé un mois après la naissance.
D'accord. Et du coup, tu as dû surmonter, j'imagine, tout un tas d'épreuves, et tes parents aussi, suite à cette naissance prématurée. Et du coup, maintenant, tu es toujours chez tes parents? Tu es comment?
Ah non, maintenant, je suis en appartement depuis 5 ans. En fait, quand j'étais gamin, je suis allé à l'école jusqu'en CM2, à l'école normale, même si j'aime pas ce mot, jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, à 12 ans, je me suis retrouvé en centre parce qu'il n'y avait plus de financement pour financer des extérieurs de vie scolaire. Et après, à l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé en foyer de vie, donc pour adultes. Et je suis resté 4 ans et j'en avais marre là-bas et j'ai tout fait pour aller vivre en appartement. À la un peu intouchable, sans parler du château, mais en ayant 6 personnes qui se relayent 7 jours sur 7.
D'accord, donc là, tu as quotidiennement des personnes qui viennent et qui t'aident dans ton quotidien pour un petit peu tout faire, quoi.
C'est ça.
D'accord, et donc tu as rencontré Benoît. Et donc, Benoît, qu'est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Eh bien, moi, c'est Benoît Mouveau. J'ai 32 ans. Dans la vie, je suis pompier professionnel à Lyon. J'ai découvert Juju par le biais de ma compagne Stéphanie, qui est son auxiliaire de vie, une de ses auxiliaires de vie en fait. Donc pour moi, le sport, c'était une partie, on va dire, une partie de ma vie, une grosse partie de ma vie, sans avoir des résultats de haut niveau. J'étais un peu touche à tout, on va dire, que ce soit dans les sports de fond comme la course à pied, le VTT, beaucoup quand j'étais jeune, ou la natation. Le fait d'avoir connu Juju et sa première expérience Ironman, on en reparlera tout à l'heure, a fait que on a voulu se lancer un petit défi tous les deux. Donc dans ma vie de tous les jours, j'ai mon boulot, j'ai ma famille et je fais un petit peu de sport à côté. Je faisais un petit peu de sport à côté de moi.
Et du coup, le donc tu l'as dit un petit peu, On a parlé, on a entendu le mot Ironman. Toi, le triathlon, c'était un objectif avant de rencontrer Julien ou pas du
Alors,
tout?
pas du tout. En fait, avant que je connaisse Julien, j'étais absolument pas tourné vers le triathlon. Je voulais m'orienter vers les courses d'obstacles ou l'ultra-trail, en fait. Suite à une blessure, donc j'ai fait une rupture des ligaments croisés en 2017 sur une course d'obstacles. J'ai pris le temps de revenir et après ça, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. De l'ultra-trail et de la course d'obstacles. Donc, je voulais intensifier un petit peu les compétitions et du coup les entraînements qui vont avec. Et en fait, en 2019, c'est l'année où j'ai connu Juju. Il m'a présenté le triathlon. C'est une épreuve que je connaissais pas auparavant au lycée. J'avais un prof avec lequel j'avais goûté le triathlon. J'ai fait des petits formats, hein, du XS, du S au lycée. Et c'est tout. C'est tout. Donc, en fait, je me suis remis à cette épreuve, donc course à pied, vélo de route. Je n'avais jamais fait jusque-là. Et natation. Voilà.
Ça a été quoi le plus dur la natation, j'imagine, non?
Honnêtement, non, pas forcément. Je pense que le plus dur là a été le vélo. Un, parce que je n'avais jamais roulé sur un vélo de route en cyclo sportif en fait. La première chose, ça a été la confiance en soi, de savoir où j'en étais par rapport aux autres. Parce que quand j'ai débuté, soit je roulais avec Juju, donc on était à deux, et c'est vrai que la configuration est quand même bien différente à deux que tout seul. Sinon, je partais tout seul en vélo pour faire mes premiers tours de roue, on va dire. Voilà, la confiance en soi en vélo de route a été plus dure. La natation et la course à pied, ma foi, ça a été, ouais.
Et alors du coup toi Julien, tu avais parlé donc à la femme de Benoît qui est ton auxiliaire de vie, tu lui avais parlé de ton envie de défi sportif et comment est-ce que tu lui avais présenté ça pour qu'elle réussisse à convaincre Benoît après de
La
t'accompagner?
droguer.
Non, ouais, je l'ai drogué un peu, ça c'est. Non, en fait, moi, pour ma petite histoire, je viens pas du tout du milieu du triathlon non plus. Je viens du milieu du ski fauteuil. Je suis multiple recordman du monde de Gaël en ski
D'accord.
français avec Eric Baron, je sais pas si tu connais.
Non, je connais pas du tout ce milieu du ski.
C'est un VTT de l'extrême, il a plus de 227 km sur un vélo. Nous,
D'accord.
avec le fauteuil, on est à 155 ans. Le dernier record, il date d'il y a 3-4 ans.
155 km/h avec un fauteuil.
Ouais.
Ah ouais, ça doit envoyer un petit peu.
Eric Baron, c'est ton parrain, Juju.
Ouais, c'est notre
Et
parrain de l'association.
son nom de scène, il est connu sous le
Sous
Baron Rouge.
Ah, si, ça me parle, ça.
Voilà,
Ouais.
c'est un gars qui a fait du VTT descente à très haut niveau et qui s'est lancé plusieurs records du monde descente en kilomètres lancés. Notamment, la grosse image de lui qu'on a, c'est sur le volcan où son vélo, le cadre, casse en deux en pleine descente en fait. Donc voilà, suite à ça, il a mis quand même 10 ans à remonter sur un vélo. Et puis derrière, il y a Juju qui l'a vu faire ses folies et qui a voulu faire pareil.
Et puis j'ai dit à moi, je dis pourquoi pas moi, moi je connais du matériel qui existe, il me dit mais ça va pas la tête, tu peux bouger juste la tête. Je lui ai dit justement moi je t'emmène demain en station, je vais présenter le matériel. Et il m'a dit ça c'était en 2013, il m'a dit en 2012, pardon, il m'a dit en 2013 on fait une première mondiale. Et du coup on est allé voir Tessier, le leader mondial de fabrication du ski, qui avait jamais vu ça, qui voulait pas entendre parler du kilomètre lancé, parce que c'était du matériel de loisir, du matériel de touriste entre guillemets. Et nous on l'a tout habillé, on l'a tout carréné, on a réalisé plein de premières mondiales au niveau aérodynamique. Et le bordel, il a tenu.
C'est excellent. Et mais quel alors j'ai plusieurs questions du coup qui arrivent là dans ma tête en même temps. Quelles compétences tu as toi, Julien, en développement de produits pour les avoir aidés dans ce développement de ce fauteuil qui t'a aidé à faire ce record?
Quelles compétences en développement de produits? Moi, je voulais un bon maintien de. Je voulais un bon maintien de tête. Je voulais qu'on, avec Eric, vu qu'il a l'expérience au niveau aérodynamique, en fait, tout autour d'Eric et moi, on avait toute une équipe d'ingénieurs, en fait. Donc, soufflerie, carénage, tout ça. Point de vue des suspensions, on avait des mécaniciens qui nous disaient, on peut-être suspension, tout ça. Donc, en fait, en fait, ils nous ont donné Eric, on a fait pareil que sur le vélo. En fait, Eric, il part sur un projet de vélo, de série, donc vendu dans le commerce, et le 300 on a fait. Nous, on a fait la même chose sur le fauteuil.
Donc, tu leur as dit, vous êtes parti de nous, il nous faut ça, on a besoin de telle caractéristique, et derrière, il y avait toute une équipe qui a créé votre produit sur mesure.
C'est ça, ouais.
Alors, ok, génial.
Eric, il a l'expérience du développement du matériel, et Juju, lui, de son côté, c'est un peu la princesse au petit pois. Il a une sensibilité énorme. Si ça se traduit pas au niveau en termes physiques, lui, il toutes les sensations, il ressent tout. La moindre secousse, le moindre pli ou au niveau suspension, on en parlait, aérodynamisme. Et en fait, il a ses remontées comme ça qui fait que ça faisait avancer les choses plutôt dans le bon sens en fait, parce qu'il ressent vraiment bien bien les choses. C'est ça.
En gros, l'exemple qu'on pourrait donner, un copilote de rallye, il ne voit pas la route parce que le ciel, il est plus bas pour se concentrer sur ses notes. Mais il sent tous les mouvements de la voiture dans son bassin, dans ses hanches, dans son dos, dans ses jambes. Dans moi, c'est exactement pareil.
Ah, je ne savais pas ça, que le copilote était un petit peu plus bas, c'est intéressant. Et alors, comment tu fais pour concrètement, quand tu es en haut de la piste, c'est le moment de se lancer, comment ça se passe? Enfin, il y a quelqu'un qui te pousse et puis c'est parti, on se retrouve en bas.
Il n'y a pas quelqu'un qui me pousse, au contraire, il y a quelqu'un devant nous et sur les côtés, parce que la piste, elle fait 45... La piste, elle fait 45 degrés là où je me lance. Moi, personnellement, je me lance à 200 mètres du sommet. Eric, quand il parle du sommet, c'est 90 degrés. Hein. Donc, okay. On a des personnes devant, on a des personnes encordées, en fait. On a des personnes devant en crampon anglaise qui nous maintiennent. Et dès qu'ils nous demandent si on est prêt, si la piste est propre... Voilà quoi, le top départ, il est donné. Avec Eric, on fonctionne beaucoup par des techniques de sophrologie pour se lancer là-dedans mentalement. En fait. Comme un peu dans tous les sports, parce que même dans l'Ironman, on en parlera après, mais tu te lances pas comme ça, même pour moi qui n'a pas la même préparation physique que Benoît, tu te lances pas dans un projet de 3,8 km de natation et 180 bornes de vélo et un marathon derrière. Parce que après, ça fait mal au cul.
ça, je veux bien te croire. Et alors, du coup, une fois que tu es lancé avec ton fauteuil dans la piste, pour te diriger, s'il y a besoin de corriger au droite, gauche, se freiner, etc., comment ça se passe?
Alors, pour me diriger, là, en dual ski, j'ai vraiment mon rôle de pilotage avec Eric. C'est-à-dire que si lui se met en aéro derrière et qu'il ne voit pas la route et que le fauteuil ski dévie de trajectoire, moi, avec mon bassin et mon dos et ma tête, je peux changer la trajectoire, en fait. Je suis comme un passager en moto.
Donc, ah oui, d'accord.
Il faut qu'on soit bien synchro parce que si on fait une erreur de trajectoire, le bordel, il part en genoux.
Oui.
Donc, conclusion, vous êtes pompiers tous les deux, vous ramassez les morceaux, quoi. En gros.
Je vois que tu t'ironises quand même pas mal le truc. mais c'est vrai que, enfin, qu'est-ce qui te fait faire ce sport, parce que l'Ironman, on peut pas vraiment considérer ça comme un sport risqué, mais ça, le, La descente comme ça, il y a du
risque. Crois-moi, c'est risqué.
Dans les descentes.
Dans les descentes.
Ah oui.
Et pour mon expérience de 2018, 45 degrés à l'ombre en pleine montée, il y avait plus d'eau à ravitaillement. Si, on a pris beaucoup de risques en 2018. Et en vélo, tu prends beaucoup de risques aussi.
Et alors, du coup, qu'est-ce qui te donne l'envie de prendre ces risques?
L'envie, bah, mon corps, il a eu. Les médecins et kinés m'ont toujours donné des limites. Moi, j'aime bien que plus tu me dis c'est pas possible, je vais peut-être mettre 10 ans à trouver que c'est possible, mais au moins je vais trouver que c'est possible. Moi, c'est la motivation de me dire c'est pas possible. Bah, si c'est possible, la preuve. Sinon, on serait pas avec toi aujourd'hui.
Ah, c'est sûr que il y a vraiment beaucoup d'histoires comme ça, enfin beaucoup, pas assez à mon avis, mais où les médecins disaient tu marcheras jamais, tu courras jamais, et puis qu'il y a des finalement les gens se sont servis de cette incapacité qu'on leur a donnée, vendue pour justement courir encore plus vite que ce qu'ils auraient couru s'ils n'avaient pas eu ce problème-là.
C'est les barrières qu'on leur impose. Moi, c'est ça qui m'a frappé un petit peu avec Julien tout autour de cette préparation, en fait. C'est que on se rend compte que bien souvent, c'est pas les personnes elles-mêmes atteintes d'un handicap qui freinent, mais bien souvent, c'est l'entourage le plus proche, parce qu'on leur dit mais tu t'es déjà fait bien assez mal comme ça. Ou tu vas pas en rajouter derrière, alors que si on leur laisse la porte ouverte, mais ils ont qu'une envie, c'est de faire comme tout le monde, et même mieux que tout le monde. Ils ont envie de franchir ces barrières et prouver que bah eux, ils sont comme tout le monde. Tout est possible, en fait. Mais pour ça, bah il faut leur laisser l'opportunité. Et il y en a beaucoup trop, je pense, à qui on met des barrières. Peut-être à juste titre, parce qu'on s'inquiète, parce que c'est la famille proche, c'est l'entourage, forcément. Mais si on les écoutait un peu plus, ils feraient beaucoup plus de choses.
Mais j'ai envie de te dire que c'est vrai pour tout le monde, en fait. Et pas forcément que pour les personnes qui ont un handicap. Tu fais de l'ultra-trail, tu as dû déjà entendre sûrement plein de fois des gens te dire « c'est beaucoup trop, tu vas te niquer les genoux, tu vas te niquer les machins.
» Les bons conseilleurs ne sont pas souvent ceux qui sont avec nous dans les efforts, ça c'est sûr.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est que les gens, en fait, ils ont envie de protéger, mais parce qu'eux se sentiraient incapables de le faire eux-mêmes. Et du coup, ils se disent que toi, tu es dans la même situation, alors que, bon, pas la même vie.
Ils se mettent leurs limites.
Mais, c'est ça, et puis ils veulent te les imposer.
Mais comme je dis souvent, hein, nos propres limites sont celles qu'on veut bien s'imposer. Hein.
C'est ça, c'est exactement ça. Et souvent, c'est des limites qu'on croit avoir, alors qu'elles sont toujours, ou souvent, moins dépassables.
Bon, moi, je vois en 3 ans de préparation, je me dis, mais musculairement, au niveau de la posture et tout, des fois, je ne mets pas tout ça, je me dis, mais je vais super bien évoluer, quoi. Parce que j'ai trouvé les gens qui font ce qu'il faut derrière, je fais ce qu'il faut. Et bon, bah pour moi, voilà, on va pas se cacher la vérité. Pour moi, c'est 70% dans la tête et 20% dans les jambes.
Alors justement, Julien, ça ressemble à quoi ta préparation pour un Ironman?
Ma préparation pour un Ironman, beaucoup d'étirements, beaucoup de kiné. Beaucoup de maintien de posture pour bien tenir longtemps, pour pas avoir mal aussi. Hydratation aussi pour éviter les crampes. Parce que moi, dès que j'ai une crampe, sur le fauteuil, par exemple sur le vélo, je peux pas bouger les jambes. Donc dès que la crampe elle va apparaître, et bah, du coup, elle va me tenir compagnie tout le temps.
Ah ouais. Donc, coup, alors, comment elle vient la crampe? Parce que, enfin, une crampe, c'est suite à souvent un effort musculaire. Quel est, toi, ton effort musculaire?
Et bah, de tenir assis pendant 8 heures sans vélo, par exemple. Ça, pour moi, c'est un effort musculaire.
D'accord.
Et puis, il
Ok.
y a aussi Juju, il est très spastique. Hein, si
Ouais.
au moindre bruit, il est toujours tendu musculairement. Et au moindre bruit, j'ai des chiens, dès que ça va se mettre
Ah, voyez.
à peine aboyer, des bruits assez
Fort.
spontanés, Julien, il va tout de suite se
Oui.
crisper. Et en fait, lui, c'est ça aussi qu'il faut qu'il gère, c'est sa spasticité et le fait de musculairement ne pas avoir de crampes. Donc en fait, tout
Voilà.
ça passe par un relâchement musculaire et mental, parce que, comme il dit, hein, pour lui, ça passe énormément par la tête. Et puis aussi, bah, c'est toutes les heures passées, je pense, dans nos entraînements, sur le vélo, dans le fauteuil ou dans le canoë, à accepter en fait la douleur et la longueur de l'effort. Au début, on faisait des sorties vélo de 2 heures. Il en avait plein de derrière. Et maintenant, on est sur des sorties de 8 heures. On va aller jusqu'à 10 heures pour l'Ironman de Vichy. Donc voilà, il va falloir qu'il subisse ça et qu'il appréhende ça mentalement de façon à aller encore plus loin et d'être frais pour la course à pied.
Un exemple, notre connaissance kilomètre à tous les lieux, mais j'ai fielé ma mère tout le long du parcours parce que c'était horrible. Mon corps, il n'était pas habitué à autant d'endurance. Et c'est pour ça qu'après, je me suis rapproché. Après, on y croit pas, mais moi, j'y crois parce que ça m'arrange pour moi. C'est pour ça qu'après, par l'intermédiaire de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus à part la kiné pour améliorer ça? Et bah, sophrologie. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai entamé l'hypnose, j'ai fini mes 6 séances. Et c'est vrai que je pratique un petit peu tous les jours. Je me suis fixé un ancrage pour être bien confort, pour être bien prêt pour la course à pied derrière. Parce que moi, c'est pas le vélo qui me fait peur, ni la natation. C'est comment être frais pour 42 km à pied derrière. Après, voilà. Après une natation, vélo, on sait faire. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas poser le vélo. On va pas poser le vélo derrière et on ne va pas rentrer à la maison tout de suite. On va rentrer à la maison beaucoup plus tard. Donc, voilà quoi.
Et alors, pour se rendre compte, c'est combien de temps que vous allez mettre pour chaque épreuve?
Pour
En
l'Ironman de
est-il?
Vichy, on part sur 1 heure et demie, on va dire, de natation. Derrière, on va partir sur 10 heures de vélo. Et ensuite, on va terminer avec le temps qui nous reste pour le marathon. Donc voilà, on se rapproche je pense, des 4 heures et demie, 5 heures pour le marathon, si tout va bien. Voilà. Donc on a deux objectifs, on a une barrière horaire en fait de 17 heures au global parce qu'on est en équipe dite spéciale avec Julien, donc on a 1 heure plus que la personne on va dire lambda. Et nous notre objectif un petit peu caché, notre carotte en fait, ça serait de le faire en 16 heures dans la barrière horaire.
Normal.
Voilà, normal de monsieur tout le monde parce que bah, finalement on est monsieur tout le monde, donc si les autres y arrivent, nous on devrait y arriver aussi.
C'est ça.
Et alors, qu'est-ce qui détermine la performance? Est-ce que c'est vraiment un travail d'équipe ou est-ce que finalement, toi, Benoît, c'est vraiment dépendant uniquement de ta condition physique à toi?
Non, il y a les deux. Il y a alors. Pour ma part, il y a le physique, il y a la résistance à l'effort dans la longueur, c'est une chose, mais en fait, à deux, vu l'effort que c'est le fait qu'on soit à deux, c'est bah, en fait, c'est du travail mental, et à deux, c'est ça qu'on travaille, en fait, c'est le soulagement mental, et dans cette direction-là, c'est là où notre binôme il est important. C'est que en fait, tu n'aurais pas Juju, mais j'aurais les mêmes contraintes. Bah, je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout. Là, le fait qu'on soit deux, quand même, Juju, il pousse pour que, voilà, quand ça va pas, il le voit très bien, hein, il l'entend. Quand je suis dans les moments un peu plus durs, il est derrière et il a les bons mots juste après l'effort pour me relancer et dire allez, c'est bon, on y va. Et voilà, donc là, le binômage là-dedans, dans ces efforts difficiles, est vraiment super important. Et c'est en ça que le binôme, il est excellent pour tous les deux. Quoi.
Et c'est pour ça que je disais, moi, pour le marathon derrière le vélo, c'est pour ça que je veux gagner un maximum de stretcher physique. Parce que si Benoît, il commence un peu à péter derrière et moi, je suis tout cuit, bah, ça s'arrêtera là parce que j'aurais plus les mots. J'aurais déjà plus les mots pour mon propre corps. Alors, du coup, je n'aurais pas les mots pour lui non plus. Donc, c'est pour ça que mon objectif en hypnose, après, je le répète, on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est d'arriver frais pour le marathon à minimum.
Non, mais c'est tout à fait cohérent, en fait, d'entendre ça, parce que mentalement, c'est vrai que de rester. De rester assis et se concentrer sur rester sur une position, parce que j'imagine que sur la natation, sur le vélo, s'il y a quelqu'un qui bouge dans tous les sens comme ça derrière, ça doit être perturbant pour celui qui est devant ou derrière. Et du coup, toi, Julien, tu as ce travail-là de concentration, de gainage, de maintien du corps dans un mouvement cohérent pour ne pas gêner la personne qui est devant ou derrière.
C'est ça.
Donc c'est ça s'entend tout à fait. C'est vrai que personnellement, comme j'ai jamais eu à faire ce type d'effort, c'est un peu inconnu pour moi. Mais comme tu voulais expliquer, ça semble tout à fait juste et cohérent. Donc quoi. Mais c'est vrai que les techniques de sophrologie et d'hypnose. Alors tu peux nous donner un entraînement type que tu fais en préparation mentale.
Ouais, en sophro par exemple. Je prends une grande inspiration, je contracte tout mon corps pendant 5 secondes, je fais en apnée, et après je le relâche et j'expire tout et je vois la formule magique dans mon corps qui se relâche tout. Et moi qui fais beaucoup de piscine aussi, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour participer au triathlon handisport, il faut que la personne en situation de handicap, c'est-à-dire moi, on soit capable de se retourner tout seul du bateau au cas où si on tombe à l'eau. Donc moi, depuis, j'ai appris ça en 2015, avant de faire l'Ironman 2018, j'ai mis trois ans. Je prenais des cours de natation à la piscine d'un petit village à côté de chez nous, à Pont-de-Vaux, pour apprendre justement à me retourner sans gilet et avec gilet. C'est-à-dire, j'avais la tête sous l'eau et mon but, c'était de me retourner sur le dos. Donc ça, maintenant, c'est acquis. C'est devenu j'ai arrêté parce que c'est devenu inné. C'est devenu naturel, en fait.
D'accord. Et comment tu fais ?
Comment je fais ? Eh ben, avec la tête, avec les bras, avec les jambes et avec le ventre. En fait, ça ne se voit pas comme ça, mais mon corps est... Il est différent dans l'eau.
D'accord. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est souvent ce que...
C'est la liberté.
Ouais, il y a un espèce de relâchement qui se fait dans l'eau. Ou...
C'est ça. Et puis, il y a une espèce de... Il y a une espèce aussi de... Moi, j'appelle ça de la musculation. Plutôt de pouvoir muscler mon corps tout seul. Mais quand je lui demande. Pas quand il veut. Vraiment quand je lui demande.
D'accord.
Et très bon gainage des abdos, Juju. Ça, c'est ouais. Ce sport à côté.
Ça, c'est ce qui maintient.
Il a des abdos de fer et il sait s'en servir correctement. Donc, non, c'est ce qui l'aide aussi à faire ses retournements. Il a un bon gainage.
Et puis, au niveau du cou aussi, la tête. Mais tu vois, quelque part, c'est pas pour rien si j'ai fait ce chemin-là, ski et triathlon derrière. Parce que je pense que j'aurais fait l'inverse. J'aurais pas été comme ça aujourd'hui.
Et alors, tu en as parlé un petit peu, du coup, Julien. C'était une de mes questions, justement, de savoir Comment est-ce que les organisateurs d'Ironman ou de triathlon de façon plus générale accueillent le fait de vouloir le faire comme ça en binôme avec une personne en situation de handicap?
Alors en fait, l'avantage du triathlon, moi j'étais impressionné pour mon premier triathlon à Nice, c'est que voilà, donc tu es sur la plage, t'attends le départ, tu te défies contre tout le monde, il y a des gens qui vomissent. Puis là d'un coup, tu tournes la tête à gauche, tu te dis ah, t'en as un qui enlève la prothèse de jambe et comme une autre pour la natation. Mais en triathlon, c'est normal. Et c'est le seul sport où t'as pas de différence en fait. En fait, t'as signé pour enfiler, ben, handicapé ou pas, t'as signé. Donc tu vas enfiler et voilà.
Ouais, ouais, les organisateurs sont vraiment bienveillants là-dessus. Ils nous accordent une place, pas forcément une place d'honneur, parce que, comme l'a dit Juju, en fait, ils nous handicapent ou pas handicapent sur un triathlon grand format. Tout le monde a signé pour la même chose. Donc, en fait, tout le monde part en même temps. Alors, ils sont bienveillants. Ils nous demandent quand même ce qu'on veut. Ils sont derrière. Voilà, c'est de la bienveillance à dire, voilà, on est là pour vous, mais en même temps, on vous mettra avec tout le monde parce que vous êtes à niveau égal de tout le monde, en fait. Et comme il dit Julien, beaucoup de handicaps hein, sur les triathlons, hein, que ce soit des membres amputés, que ce soit des handicaps un peu plus physiques ou un peu plus neuro, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup. Et voilà, alors un peu moins de binômes comme nous, c'est vrai, mais on retrouve des binômes, souvent des personnes paraplégiques. Voilà, qui ont envie de se donner aussi parce que sur le vélo, ils ont des systèmes adaptés où ils peuvent pédaler. Voilà, tout le monde a sa place pour participer à ce challenge et ils laissent notre place dans cet effort. Donc ça, c'est plutôt cool. On ne se voit pas refuser des inscriptions sur des triathlons à cause du handicap. Non. Toujours, ils nous disent bien sûr, pas de soucis.
Elles ont d'autres compétitions, par contre, tu as des refus. Non, parce que non, c'est trop chiant, ou non, parce que c'est pas accessible. Alors que ça l'est, hein. Le plus souvent, ça l'est, hein. C'est juste que les organisateurs, ils n'ont pas envie de se faire chier avec ça, des fois, et en triathlon, ça passe. Donc, pour ma propre expérience en 2018, je vais avoir quelqu'un qui va me parler sur un paddle comment je vais être sur le bateau, comment je vais être en train d'aller pour me demander si ça va, puisque avec moi, la natation, c'est la seule discipline où lui et moi, on ne peut pas communiquer.
Ah, donc là, tu vas avoir quelqu'un en paddle qui va te suivre tout du long pour voir si tu... Ah, c'est génial, ça.
C'est ça. Et par contre, sur le vélo, c'est la même galère. Il n'y aura personne à côté de nous, personne ne pourra nous aider si on crame une roue, s'il faut faire un transfert. C'est les mêmes règles que tout le monde. À part en zone de transition où ils autorisent deux personnes en fait, pour faire mes transferts pendant que Benoît se change, tout ça. Et nous qu'on change de fauteuil.
Il y a beaucoup de gens comme ça qui le font en binôme.
Et ben
généralement les Ironman ils en prennent deux par an.
Ouais, alors après il y en a beaucoup. On s'est rendu compte dans cette préparation que beaucoup de personnes essayaient d'adapter la pratique, que ce soit au vélo ou au triathlon, des personnes handicapées. Nous on a pu recenser, on va dire, peut-être une dizaine de binômes là en France qui se lancent là-dessus. Après, sur des formats très longue distance comme les formats Ironman, on est un peu moins, mais y a du monde. Je pense notamment à la Team Wes, les deux frères Franck et Villa, Théophile et Valentin, salut, qui ont réalisé l'exploit sur Vichy déjà. Il y avait un papa corse et son fils qui l'ont fait aussi à Nice. Donc voilà, je pense que de plus en plus, en fait, des personnes se lancent là-dessus. Et j'espère que c'est du fait de voir des personnes comme Julien et moi se lancer ces défis, parce que c'est aussi à ça que ça sert, hein, pour nous, de se lancer sur un Ironman, c'est de montrer à tout le monde et de montrer notamment aux personnes tétraplégiques ou handicapées lourdes que peu importe le handicap, finalement, on peut se lancer sur des épreuves en binôme, certes, mais voilà, on le fait et on le fait ensemble. Donc ça, c'est une bonne chose et il faudrait que ça continue dans ce sens-là. Et ces personnes-là, en fait, comme nous, se retrouvent face à des problématiques de matériel, en fait. Peu de choses existent en vélo. Il n'y a pas de vélo qui existe. Hein. On a dû le faire, faire du sur-mesure. On prend des vélos type vélo cargo qui sert à faire des transports de marchandises, notamment dans les grandes villes, ils en utilisent beaucoup. Et on adapte un siège dessus pour partir. Et j'espère qu'au fur et à mesure des années, avec la participation de plus en plus nombreuse de binômes comme nous, eh ben, les professionnels se penchent sur du matériel adapté pour élargir cette pratique à un maximum de personnes, en fait.
Mais moi, sans ce que dis, je pense que là-dessus, cette année, ça va bouger parce que moi, je me suis fixé un petit objectif personnel. Déjà, c'est de le finir. Mais nous, c'est le 22 août et le début du départ à Tokyo, c'est le 24. Donc moi, ce que je veux, c'est, même si je ne fais pas partie de la Fédération française, c'est au moins, même si c'est juste honorifique ou anecdotique, attends-le comme tu veux. Mais pour moi, c'est important d'aller chercher ce fameux t-shirt noir en tant que personne handicapée, sportive, et deux jours avant les paras, quoi.
Ça sera nos JO.
C'est encore plus grisant, quoi.
Et est-ce que finalement le problème, enfin si c'est pas un problème, si on peut appeler ça un problème, mais est-ce qu'il y a plus de Julien qui veulent faire ce type d'effort-là et pas assez de Benoît pour les accompagner, ou est-ce que c'est l'inverse?
Ça va dans les deux sens.
Il faut trouver le bon Julien qui aille avec le bon Benoît, je pense. Là, je sais pas si Julien pourra confirmer, mais la préparation que je lui ai imposée, je pense, pendant 2 ans, parce que c'était clairement ça, hein, je me suis lancé avec lui, on en a discuté, on a été très clair. Je lui ai dit, écoute, les entraînements, ça sera pas moi de mon côté, et puis toi, de temps en temps, non. C'est quand je suis sur le vélo, lui, il est avec moi sur le vélo. Quand je vais nager, il est avec moi dans le canoé. Et pour courir, c'est pareil. Donc, je lui ai demandé énormément de temps, énormément de sacrifices aussi, que ce soit pour lui ou pour moi. Et c'est pas facile tous les jours. Et il faut se rendre compte de l'importance que c'est, des sacrifices qu'on peut faire en termes de temps, en termes d'à côté, de famille, une préparation comme ça. C'est ouvert à tout le monde. Mais il faut vraiment bien être fusionnels tous les deux pour que ça marche. Parce que, comme tout le monde, hein, comme un bon petit couple, hein, on a nos petites engueulades, on a nos beaux moments aussi. Donc voilà, il faut que ce soit solide pour que ça tienne et que ça avance dans le bon sens.
Après, oui, c'est des sacrifices, mais quelqu'un qui veut beaucoup 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 d'argent, t'es obligé de te sacrifier au boulot. Et nous, on s'est sacrifié pendant 2 ans et on est proche du jackpot. Donc voilà, on va tout faire pour mettre les dernières pièces qui restent dans la machine, et puis voilà, quoi.
C'est du
Alors,
travail.
énormément de temps. C'est vrai que le triathlon, c'est connu pour ça, pour être un sport qui est très chronophage. Hein, parce que la majorité des personnes, ils ont un sport auquel il faut qu'ils s'entraînent. Là, il y en a trois, avec leurs spécificités. Surtout le vélo, qui est très chronophage. Et tu le disais tout à l'heure, hein, c'est un objectif de 10 heures de temps passé sur la selle. Donc, ça se prépare tout ça. Pour se rendre compte un petit peu depuis 2 ans, s'il y avait une semaine type d'entraînement, qu'est-ce que ça serait?
C'est une semaine moyenne, c'est 12 à 20 heures de sport par semaine. avec dedans une sortie vélo, plus une sortie course à pied, plus une sortie natation avec Juju. Et moi, de mon côté, en solo, pareil. Donc, on est sur déjà 6 sorties, plus les à côté, tout ce qui est renfo à côté. Donc, ouais, c'est ça. C'est entre 12 et 20 heures. On est plus les semaines de 20 heures. On n'en a pas fait énormément non plus. Mais entre 12 et 18 heures, ouais, ça, c'est pas rare. C'est pas rare. Ces derniers temps, un petit peu plus, parce que je sors de blessure, je me suis fait opérer du genou. Mais là, on revient à un niveau où on passe beaucoup, beaucoup de temps. Celle qui en parlerait mieux, c'est ma compagne. Mais voilà, ouais,
Elle n'y est pas pour rien non plus, hein, dans le fait que tu sois là où tu en
Non, 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 ouais, c'est sûr.
es.
Donc, il ne faudra pas qu'elle vienne se me plaindre. Mais je plaisante, non, non, mais c'est vrai que on parlait de sacrifice, ça en fait partie aussi, et on est content d'avoir des personnes qui nous soutiennent et qui sont là derrière, parce que, bah, mine de rien, on n'est pas souvent là à la maison. Quand
C'est
elle est
ça.
là, on part s'entraîner, et voilà. Ouais, il faut vraiment du soutien derrière, et on est content de les avoir quand même.
Bah c'est primordial, hein. Si la famille suit pas, si la famille passe son temps à râler parce qu'on n'est pas là, ça tient pas.
C'est ça,
Non,
ouais.
ça tient pas. Et moi, ma famille, ils ont mis du mal à, ils ont mis du temps à comprendre ça. Et puis, au fur et à mesure des années, ils l'ont compris. Et maintenant, rendez-vous le 22 août.
Dernière ligne droite.
Ouais, on est dans la dernière ligne droite, là, tout s'accélère. Et bah, je pense que de toute façon, avec Juju, on a fait le plus dur, c'est-à-dire la préparation, hein. C'est 2 ans de préparation, donc on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, après, l'Ironman, c'est la cerise sur le gâteau. C'est bah, le jour J, si tout se passe bien et qu'on va jusqu'au bout, voilà, ça sera l'accomplissement. Mais dans tous les cas, pas de regret, parce que tout ce qu'on a accompli là depuis 2 ans, c'est ça qui comptait, c'est ça qui a fait aujourd'hui notre force. Et donc, il n'y aurait pas de regret, même si jamais ça n'allait pas jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'on peut déjà d'ores et déjà être fier
De toute
de
façon,
tout ce
tout
qu'on
ce
a
qu'on a
fait.
fait, ça n'a pas servi à rien, et ça servira encore dans le temps. Moi, je vais servir pendant d'autres sports derrière.
Et justement, quels sont les autres sports qui t'intéressent, Julien?
Bah, moi, je ne vois pas très bien dans mon domaine de prédilection. Le ski, enfin, le tournoi mondial en super G, par exemple, ça ne s'est jamais fait en binôme. Donc, pourquoi pas faire une première mondiale, et puis surtout pas abandonner le triathlon, mais plus faire des Ironman, mais faire un triathlon L, un triathlon M, plus dans le fun. En fait, après, une fois qu'on aura touché le sommet, ben on aura envie de redescendre, et redescendre dans le loisir, même si aujourd'hui on prend du plaisir, hein. Mais comme l'a dit Benoît, c'est des sacrifices. Donc, redescendre dans le loisir et redescendre dans plus regarder une moyenne, plus regarder un chrono. Au contraire, juste le faire, et peu importe, c'est pas grave si je mets une demi-heure de plus pour faire un S. Nous, on n'est pas encore, mais on le sera, du moins, je le souhaite. Ouais, ben, on sera Ironman, donc après, sur des petites courses de loisirs, bah, ça ne nous touchera pas, en fait, puisqu'on aura touché le Graal. Et le Graal, il va être le 22 août.
En tout cas, vous avez l'air d'être super confiant et il en faut de la confiance pour partir sur un engagement comme ça. Qu'est-ce qui vous, je cherche le bon mot, vous inquiète le plus ou vous angoisse le plus sur l'épreuve? Qu'est-ce qui se pourrait se passer qui mettrait à mal votre réussite?
Le vélo.
Une provenance en
vélo. C'est la partie, on va dire, la plus délicate parce que c'est là où on nous impose des barrières horaires. Donc, il faut pas qu'on traîne. Il nous faut pas de soucis sur le vélo. À l'allure où on va rouler, ça nous permettrait pas des pauses énormes non plus. Donc, voilà, tenir le rythme en vélo et ne pas se faire sortir sur des barrières horaires, c'est... si on peut dire la plus grosse inquiétude, c'est ce qui va être la chose à pas louper. Si on fait comme on l'a toujours fait, tout devrait bien se passer. On n'a jamais eu de soucis sur le vélo et pourvu que ça dure. Et puis voilà, après, une fois qu'on a pris le fauteuil, certes, ça sera peut-être les moments les plus longs de la journée, mais on aura fait pour nous le plus dur, en tout cas. Le vélo.
Un problème mécanique.
Dès qu'on sera avec le fauteuil, c'est on rentre à la maison.
C'est avec un petit détour.
Quoi qu'il se passe, ce sera ça. Ouais. Mais faut déjà y aller sur le fauteuil.
Je vois très bien cette idée de ça y est, maintenant c'est le retour, on retourne à la maison. C'est un peu cette idée aussi en ultra quand tu arrives à la moitié. Bon, bah maintenant qu'on est là, il n'y a plus qu'à rentrer.
Il n'y a plus qu'à rentrer.
C'est marrant. Alors, ça fait déjà 45 minutes qu'on est en train de papoter avec cette histoire hyper inspirante que vous êtes en train de nous raconter. Julien, j'ai l'habitude de poser dans cette série Le sport a changé ma vie une question qui pour tous ceux qui à qui il est arrivé ce qu'on a nous on a appelé un obstacle de vie. Pour tous les invités, ils ont chacun leur spécificité.
Ouais.
Toi, c'est cette tétraplégie qui t'est tombée dessus à la naissance. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté de positif?
Eh ben moi à l'âge de mon adolescence, c'était un obstacle. Aujourd'hui c'est une force qui me permet de faire plein de choses, de rencontrer plein de gens, de partager, et moi, ce que les jeunes ne savent pas, c'est que le triathlon, c'est une discipline très individuelle, si je peux dire, donc très égoïste, parce que les mecs, ils sont sur leur vélo, ils sont couchés, ils sont tout seuls, pas dans leur femme. Et bien, quelque part, moi, c'est ce qu'on a toujours dit avec Eric. On a transformé. Eric, il fait partie parce que moi aussi, d'ailleurs, en fait, on a transformé les disciplines dites individuelles, qui pour moi ne veulent rien dire, en disciplines collectives. Si on ne partage pas la même passion ou la même discipline, c'est que sur le binôme, là, soit là, sur les deux, où la discipline n'est pas fait pour lui ou n'est pas fait pour l'autre. Moi, ce que j'aime bien dans leur dispense, c'est le partage. Comme on voit pas ça ailleurs, quoi. La personne, elle galère, mais elle n'est pas toute seule à galérer, du coup.
C'est vrai que, comme vous l'avez dit plusieurs fois, là, quand tu es au départ d'un Ironman, t'es forcément dans la galère, tout le monde est dans la même galère, et là au moins tu as le loisir de pouvoir le partager, et c'est
puis le handicap, c'est une force, c'est pas ta vie, enfin, du moins la mienne, elle s'arrête pas là, j'espère qu'elle s'arrêtera pas après l'Ironman. Il y a encore plein de choses à faire. Et autre que dans le sport, plein de projets dans la tête. Après, est-ce qu'ils vont se réaliser ou pas, mais voilà.
Tu peux nous en parler de ces projets?
En tout cas, tous mes futurs projets, je les mettrai en place. Moi j'ai une formation en préparation mentale du sport. Donc, je suis en relation avec le DGS de l'Olympique Lyonnais depuis un an et demi. Et j'aimerais bien rentrer dans le staff en tant que préparateur mental. Parce que aucun club de Ligue 1 n'a encore une préparation mentale. Là, il y a Teddy Riner qui est en train de faire bouger les choses. par rapport à ça, parce que lui il le dit. Lui il le dit depuis pas longtemps, mais c'est le seul qui le dit et qui le montre actuellement. Il a une psychologue depuis l'âge de 13 ans, depuis qu'il est rentré à l'INSEP, qui l'accompagne sur tous les événements. Donc, il y a vraiment quelque chose à gratter, en fait. Quel que soit dans la catégorie handisport ou sport valide, il y a vraiment quelque chose à gratter dans le mental. Avant, on cherchait la performance physique, exemple en natation, la vitesse avec les combinaisons en peau de requin. Aujourd'hui, on s'est dit, la puissance, ils l'ont, la vitesse, ils l'ont. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette puissance? Eh bien, c'est le premier, c'est le nerf de la guerre du corps humain, c'est le cerveau. Tout passe par le cerveau, en fait, tout passe par le mental. Et pour moi, la préparation mentale, c'est juste magique. Et c'est l'avenir des grands sportifs de demain.
Eh ben, je suis tout à fait en accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on a énormément travaillé sur tous les aspects de l'entraînement, de performance, qu'est-ce qu'on peut adapter dans l'entraînement pour arriver au meilleur niveau à un instant T. Ensuite, ça a été la nutrition aussi. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la nutrition. Qu'est-ce qu'il faut manger, quand le manger, pas manger, etc. Et je suis persuadé aussi, comme toi, Julien, que la préparation mentale, c'est le nouvel aspect qui va faire que les sportifs vont performer encore plus. Ceux qui vont s'y intéresser performeront plus que les autres. J'en suis convaincu.
Il y a un exemple qui s'est passé au JO hier, l'américaine, la numéro 1 mondiale gymnaste. Elle a quitté le concours après son saut au cheval d'arceau. Au lieu de faire 3 bruits, elle en a fait 2. Elle a remis le survêtement et elle a déclaré en conférence de presse, j'ai abandonné la compétition parce que, oui, je sais, je suis la numéro 1 mondiale, psychologiquement, ça ne va plus, je ne suis plus dedans, j'ai l'impression de porter le poids du monde entier sur mes épaules. Donc, cet exemple-là, ça veut bien dire qu'avec les athlètes, aujourd'hui, on travaille pas assez ça.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est à mon avis vraiment la suite des entraînements qui vont arriver. Alors à haut niveau et pas que. Hein, je pense que même
même avec des jeunes, même avec tout.
Tout à fait.
J'ai eu l'occasion de travailler avec des jeunes. Déjà, tu leur poses la question pourquoi ils font ce sport-là, mais ils réfléchissent. Déjà, c'est pas inné. Bah, tu dois savoir pourquoi tu fais ce sport-là. Et il y en a qui disent bah, parce que papa, il l'a fait. Le plus beau, papa, il aurait été danseur étoile, tu aurais été danseur étoile. Dans certaines logiques, c'est ça maintenant dans leur tête aux gens. En fait. Ils savent pas s'approprier leur sport et leur vie. C'est ça qui manque mentalement.
C'est tout à fait juste. Il y a encore un gros travail à faire de la part des éducateurs sportifs à ce niveau-là, c'est évident. Alors, Julien et Benoît, si là, dans notre auditoire, il y a des gens qui seraient inspirés par votre histoire et qui se disent « moi, je veux faire pareil », quel serait le conseil ou les conseils que vous pourriez leur apporter?
Moi, Justin, vas-y, fais-le, crois en toi, ça marche pas, mais au moins tu l'auras fait.
Arrêtez de se poser des questions et puis foncez. Allez-y, en fait. On voit toujours des choses qui nous plaisent au loin et on dit « j'aimerais bien ». Et souvent, ce qui nous retient… C'est la peur de pas y arriver, la peur de faire le premier pas. Et en fait, on se rend compte que c'est bon, une fois qu'on a le pied dedans, rien ne peut s'arrêter et on peut aller que jusqu'au bout. Donc, faut foncer.
Après, dès qu'on a le pied à l'étrier, c'est une drogue. Mais rassurez-vous, vous ne ferez pas une overdose. Ou du moins, si vous faites une overdose, cette overdose, elle est bonne. Elle est bonne pour votre corps, elle est bonne pour votre santé, elle est bonne pour plein de choses.
Voilà, ne pas se mettre de limites et y aller.
Donc, vive France 3 et vive le sport. Non, pardon, celle-là, elle est pas de moi.
effectivement, on n'est pas encore sur France 3, peut-être un jour, mais pas encore. est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter dont on n'aurait pas parlé avant de se quitter?
Ouais, n'oubliez pas de nous suivre à Vichy. On vous
alors comment alors malheureusement l'épisode il sortira après votre épreuve, donc on sort là on est en juillet, on est le 29 juillet le jour du tournage de Vichy, c'est le 22 août si j'ai bien compris, et l'épisode
il sortira en vidéo, on aura fini.
Non mais sérieusement, moi c'est j'ai un petit message à faire passer parce que c'est ce film qui m'a donné envie. Et j'ai même rencontré le réalisateur avec une actrice.
Est-ce que tu peux en parler du film? Parce qu'on n'en a pas dit, on n'en a pas parlé.
Lors d'un regard du monde. Regardez le film de toutes nos forces. Au niveau du handicap, au niveau du lien familial. C'était mon histoire. J'ai un papa qui est dans le déni au niveau du handicap. Et lui, dans le film, c'était un papa aussi dans le déni. Dans le déni, et grâce à ça, un père et un fils se sont retrouvés. Et puis, pour la petite anecdote, dans le film, donc c'est Fabien Hérault qui est aussi IMC, et dans le film, donc il est IMC, exactement comme moi, et dans le film, il s'appelle Julien. Donc après, superstition ou pas, mais pour moi, il y avait un signe derrière, quoi. Et c'est pour ça qu'après, j'ai contacté le réalisateur. J'ai mis 6 mois pour trouver ses contacts. J'ai dit, il faut absolument que je le contacte et tout. Parce que le type, en fait, il a fait mon histoire.
Sans le savoir.
En gros, je me suis dit exactement ça, quoi.
C'est ça. C'était en regardant De toutes nos forces, c'est vrai que c'est l'histoire de Juju et puis l'histoire de ce qu'il s'apprête à faire. Donc, c'est vraiment un très beau film et qui est très prenant et qui peut ouvrir les yeux aux gens aussi sur le monde du handicap et le monde du sport. Il est à voir, regardez-le, tout comme ce film 100 mètres qui est sorti là il y a quelques temps.
Il est magnifique aussi.
Donc voilà, on en voit de plus en plus ces films-là où on lit le handicap et le sport, finalement le dépassement de soi, et c'est très très prenant. Donc pour ceux qui comprendraient pas quel est l'effort de Julien et quelle est sa motivation à faire un Ironman, ce film il explique très bien.
Voilà, je ne sais plus le nom de la personne, mais vu qu'on est dans le trail, vu qu'on est dans le sport, à changer ma vie. Il y a une personne qui a 55 ans, qui est passée sur tout le sport il y a pas longtemps, qui a la maladie de Parkinson, donc qui n'était plus capable de se faire à manger, qui prenait je ne sais pas combien de médocs par jour. Et quand il faisait du trail, il n'avait plus aucun problème. Hein. Et il tombait tout le temps et il se relevait. Et même son gamin derrière, il disait, mais papa, faut que t'arrêtes, tu vas te faire mal et tout. Non, tant que je pourrais me relever, j'arrêterai pas.
J'ai effectivement entendu parler de cette personne et je crois qu'on a prévu un enregistrement avec elle. on a prévu de la rencontrer.
Si c'est pas un bon la vidéo, bonjour à toi et on y croit.
Merci beaucoup pour cet échange. Je croyais franchement, honnêtement, que le film était en écoutant votre histoire, je pensais que le film était issu de ton histoire, Julien, de votre histoire. Et donc c'est super inspirant, c'est une vraie force pour tous ceux qui nous écouteront et qui ont envie de faire la même chose que vous. En tout cas, même si l'épisode sortira après, moi je vous souhaite personnellement bon courage pour cette épreuve qui en sera forcément une. Hein. Il va y avoir des moments durs, mais je vous fais confiance pour surmonter tout ça. En tout cas, vous avez l'air d'être un très très beau binôme. Ça fait plaisir à voir. Merci.
Allez, merci beaucoup.
Allez, merci.
Allez.
À bientôt.
Bye bye.
Bonne continuation.
Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.